Bonjour à toutes et à tous, Audrey Lamoli et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations, une émission dédiée aux associations bien sûr et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association Espérer 95 qui milite depuis plus de 45 ans pour une véritable intégration des personnes et lutte contre toute forme d'exclusion, d'injustice et d'inégalité sociale. Pour nous présenter cette association valdoisienne, j'accueille aujourd'hui Jamila Marioum, directrice des opérations, Joachim Reynard, directeur du développement associatif, et Eric Candini, résident au sein d'une maison relais. Bonjour à tous les trois et bienvenue.
Bonjour.
Au sommaire de cette émission, nous découvrirons nos invités dans la rubrique Portrait d'invité, puis vous nous présenterez plus concrètement ce que propose Espérer 95 et en dernière partie d'émission, vous nous en direz un peu plus sur ce qu'est une maison relais. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre parcours, votre portrait d'invité, pour en savoir un petit peu plus sur vous. Est-ce que vous êtes OK ?
Avec plaisir.
C'est pas parti. Bon. Alors, on commence avec vous, Joachim et Jamila. Vous êtes tous les deux salariés au sein d'Espérer. Quel a été votre parcours avant de rejoindre l'association ? Qui veut commencer ?
Vas-y, Jamila.
Jamila.
Alors, mon parcours avant de commencer l'association, c'est un parcours, on va dire, un peu typique du travailleur social, avec des rencontres qui se sont faites très jeunes, où effectivement, je découvre la vie de la rue, que des gens dorment dehors, et je me dis, quel métier ? Enfin, je m'intéresse en tous les cas aux métiers qui sont consacrés aux personnes qui rencontrent cette problématique de rue. Et je découvre le métier d'assistante de service social. Donc je me lance dans ces études-là. Et ensuite, je suis assistante sociale dans les quartiers et je m'occupe pas mal de jeunes en errance. Et donc je découvre un numéro de téléphone qui m'attire énormément, en tous les cas, dans ce qu'il peut apporter aux personnes qui sont à la rue. C'est le 115, le numéro d'appel d'urgence. Et donc je vais pouvoir, à un moment donné, postuler au poste de chef de service du 115, et c'est comme ça que j'arrive chez Espérer 95, il y a une quinzaine d'années.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander, ça fait combien de temps?
Une quinzaine d'années, avec un premier poste de chef de service du 115 du Val-d'Oise.
Voilà. Merci Jamila, même question Joachim, qui êtes-vous, d'où venez-vous?
Moi j'ai commencé comme, je suis arrivé dans le social un peu par hasard, c'est-à-dire que j'ai commencé comme journaliste spécialisé dans le social, parce que j'avais trouvé un poste de journaliste dans un journal spécialisé, c'est ce qui m'a permis de connaître les politiques sociales de protection de l'enfance en faveur des personnes porteuses de handicap et sur l'insertion, et puis de fil en aiguille, en fait je me suis ensuite investi dans l'associatif, professionnellement je veux dire, dans diverses associations jusqu'à, mais c'était des associations où on était plus dans l'accompagnement, on va dire, des collectivités dans l'évolution de leurs pratiques, l'accompagnement d'associations, et j'ai rejoint Espérer il y a un an et demi avec une volonté là d'être beaucoup plus aussi en lien avec le terrain, l'impact, vraiment pour moi ça a toujours été important de que mon métier ait du sens, c'est-à-dire qu'il contribue à ma modeste échelle, peut-être à améliorer un petit peu les choses. Et voilà, et chez Espérer, l'idée c'est de pouvoir justement concrètement accompagner des personnes, de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie d'un certain nombre de personnes, et voilà, de façon très concrète, avec des impacts très concrets.
Alors, Espérer 95 existe depuis, j'ai dit, 45 ans. Oui. Ça fait longtemps. Est-ce que vous pourriez nous rappeler brièvement le contexte? Comment s'est créée cette association sur le Val-d'Oise?
Les débuts d'Espérer, c'est côté plutôt du socio-judiciaire. C'est-à-dire que c'est dans les années, dans ces années-là, on va développer des actions socio-judiciaires. On se rend compte qu'en fait, il y a pas grand chose qui est prévu pour les gens qui sortent de prison, notamment de longue peine de prison. Et quand on a fait une longue peine de prison, en sortant, en général, on est sans rien, on n'a pas grand chose, on n'a pas d'emploi, bien. Souvent on n'a plus de papier, les droits à la santé sont plus ouverts, on n'a pas de logement. Donc, fatalement, très rapidement, très facilement, on peut tomber dans la récidive. Et en fait, toute la question, c'était comment est-ce qu'on accompagne ces personnes qui sortent de prison pour justement lutter contre ces récidives et leur permettre de se réinsérer socialement. Et donc, l'association s'est formée là-dessus en 79, l'accompagnement des longues peines de prison. Et ensuite, elle s'est développée sur de l'hébergement, parce qu'il a fallu que ces personnes puissent être hébergées. Mmh. Et l'hébergement d'urgence s'est développé beaucoup sur l'association.
Alors, on va en parler, évidemment. Mais avant ça, Eric, vous êtes résident au sein d'une maison relais. Alors, avant de nous raconter ce que c'est, on se garde un petit peu de suspense. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous en dire aussi un petit peu plus sur vous, d'où vous venez, qui êtes-vous ?
Qui je suis ? Je pourrais définir ça comme un skieur qui a déballé la pente, qui s'est cassé la gueule et qui n'a pas pu remonter sur ses skis.
Alors pourquoi cette image elle vous parle ? Pourquoi vous pensez à cette image-là ? Ça veut dire quoi ?
Ouais, parce que, voyez-vous, je viens d'une famille, comment on peut dire ça, tuyau de poils, un peu séparé à droite à gauche, et il a fallu que je me débrouille tout seul. Donc j'ai pris une direction, j'ai fait des choix, mais j'ai fait des mauvais choix. Donc ce qui fait que j'ai un peu glissé sur la pente.
Et alors à quel moment votre vie, vous, a basculé ? Qu'est-ce qui a été, et aussi qu'est-ce qui a été le plus difficile à ce moment-là ?
Moi, je me suis retrouvé tout seul, c'est-à-dire que je viens, bon, comme ma famille, elle n'a pas pu m'assumer, je viens de foyer, j'étais en famille d'accueil, et à un moment donné, j'ai perdu ma mère à l'âge de 18 ans, et depuis 18 ans, après, je suis parti de la maison, donc il a fallu que je me débrouille tout seul, et c'est là que j'ai connu la rue, et j'ai fait des mauvais choix. Je suis tombé dans les addictions, et j'ai eu du mal à m'en sortir.
Et alors, quand on vit à la rue, de quoi on a le plus besoin ?
Alors, je vais vous expliquer. La rue, c'est très, très difficile. Non seulement il faut trouver un endroit pour dormir, mais il faut aussi trouver des endroits pour se laver, pour se nourrir et avoir quand même une vie sociale. Donc, les maisons relais et Espérer 95, c'est fait pour ça. Ça nous donne l'occasion de pouvoir se vêtir, se laver, rencontrer des gens et aussi rencontrer des médecins quand on a des problèmes physiques.
Et à quel moment, alors vous viviez dans la rue ?
Oui.
Vous étiez en lien avec Espéré 95 ?
Alors je vais vous expliquer, j'étais depuis une vingtaine d'années dans la rue. Et j'allais d'association en association, de ville en ville, enfin je savais, j'avais pas trop de repères. Parce qu'à l'époque où j'étais dans la rue, il n'y avait pas beaucoup d'associations, il n'y avait pas beaucoup de repères pour nous. Donc il fallait qu'on cherche un endroit où se poser. Et évidemment, au bout d'un moment, avec les addictions, la vie difficile, la rue, le froid, on a des problèmes physiques. Et on a des problèmes de papier, des problèmes d'assurance sociale. Donc on n'ose pas aller voir les médecins, on n'ose pas se faire soigner, quoi. Donc, arrivé à un moment donné, grâce aux accueils de jour, on peut discuter avec une assistante sociale, un médecin, qui nous donne la direction pour aller se faire soigner, et la direction pour aller avoir un logement, pour être autonome, quoi.
Alors, vous avez dit, j'ai été 20 ans dans la rue. À quel moment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous acceptez d'être aidé ?
Beaucoup de problèmes physiques. Pour moi, personnellement, c'était un problème physique. Je ne sais pas si j'aurais continué à la rue, mais j'ai réussi à me faire soigner grâce à la Croix-Rouge des Anvilles. Je voudrais signaler en passant, je voulais dire un petit coucou à Sana. C'était une fille formidable et aussi Bonnie. Ce sont des gens formidables. La Croix-Rouge à Aisonville, il y a un accueil de jour. Là-bas, on peut déjeuner, se laver, se vêtir et passer un moment agréable entre potes, quoi. Et on peut aussi avoir une assistante sociale comme Sana qui est formidable.
Alors, qu'est-ce qu'elle a changé pour vous, cette Sana?
D'une gentillesse, d'une aimabilité, vous pouvez tout lui demander, elle est toujours souriante, toujours accueillante. Et à un moment donné, il a fallu que je me soigne. Et ça faisait 3 ans qu'on se connaissait, ça faisait 3 ans que je fréquentais l'accueil de jour à Aisonville, parce que je squattais sous une tente à l'époque à Domont, qui est juste à côté. Et on m'avait indiqué justement la Croix-Rouge à Aisonville, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et de fil en aiguille, comme j'y allais tous les jours de la semaine, c'est ouvert du lundi au vendredi, même l'hiver. Ça m'a permis de me reconstruire un peu, d'avoir un petit déjeuner, de pouvoir me laver et de pouvoir parler de mes problèmes physiques. Parce que, évidemment, avec les assistantes sociales qu'on voyage de droite à gauche, on ne peut pas rentrer dans les détails. Tandis que là, avec elle, j'ai pu rentrer dans les détails. Et à un moment donné, elle m'a dit, va te faire soigner. Et j'ai pu me faire soigner à l'époque. À l'époque, j'avais un problème de genou droit, donc je me suis fait opérer, ils m'ont mis une prothèse. Et grâce à ça, j'ai fait une rééducation à la clinique du parc à Saint-Olomone, et de là, de fil en aiguille, je me suis fait soigner, et grâce à elle, elle m'a fait connaître la maison relais.
Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment il y a eu une autre partie de votre histoire de vie, c'est-à-dire en arrivant en maison relais.
Bah disons que ça a été le pied à l'étrier. D'accord. C'est-à-dire que à partir du moment où je suis arrivé à la maison relais, c'est-à-dire en 2022, ça fait déjà 4 ans, cette maison est formidable. Vous avez un logement autonome. Vous avez...
Ne nous en dites pas plus, Eric. On garde un petit peu de suspense pour le focus où là vous allez vraiment nous expliquer.
D'accord.
Ce qu'on sent à quel point ça a été et c'est important dans votre parcours de vie. Juste avant d'écouter la première pause musicale, vous avez des passions. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie?
Ah, j'aime bien le sport, j'aime bien le foot, j'aime bien les arts martiaux. Je fais un peu de peinture en amateur. Hein.
Merci beaucoup à tous les trois pour cette première présentation. Je vous propose de découvrir plus concrètement ce que propose Espéré 95 juste après avoir écouté Hocus Pocus et Cesaria Evora. À tout de suite sur IDFM.
Que t'as 5 minutes à m'accorder.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer. Des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois à table tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'est tes mômes. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-dessus de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême quand ils disent je te kiffe pour te dire je t'aime.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Écoute.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Yeah.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
tu as du caractère. Tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Mais qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. On se lasse au bout d'un moment. Difficile de partager l'ordinaire. Alors du coup, toi, tous les 5 ans, tu te dégotes un nouveau partenaire. Parfois, à cette occasion, tu bois comme un ivrogne. Et tu te réveilles au lit avec un borgne. Tu le mets dehors, mais comme t'es accro, tu bois trop et finis sous les draps d'un escroc. Petit pays, ne le prends pas mal, car tu sais qu'au fond je t'apprécie. Mais il fallait que tout mon sac je te déballe. S'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes aussi.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations où je reçois Eric Candini, Joachim Reynard et Jamila Marioum de l'association Espéré 95 qui lutte contre toutes les formes d'exclusion. Alors Joachim, peut-être, là on va parler de ce que fait concrètement Espéré 95, peut-être avant de rentrer dans les différentes actions, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment s'organise l'association? C'est une association valdoisienne, sur quel territoire elle intervient? Vous êtes une association professionnelle, donc voilà, qui est l'association?
Qu'on est une association donc, qui existe depuis 79, c'est une association sur le Val-d'Oise, qui agit exclusivement sur le Val-d'Oise depuis 45 ans. On est 330 salariés aujourd'hui, et l'association accompagne entre 12 000 et 13 000 personnes chaque année. Et après cet accompagnement, en fait, on travaille avec les personnes vraiment dès le premier contact, dès la rue, pour vraiment permettre à chacun de retrouver une dignité, une stabilité. On accompagne des personnes chaque étape de leur parcours, donc ça peut être aussi bien pour de la mise à l'abri. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de l'accueil de jour, l'accueil de nuit, on parlera du 115, se reconstruire, s'insérer, se réinsérer, se soigner, se loger, se former. On va vraiment, l'idée c'est d'accompagner aussi les personnes en fonction de leur situation personnelle et en ayant une approche globale de la situation et de la personne, et avec aussi une logique de on fait pas pour, on fait avec les personnes. Les personnes, elles sont auteurs de leur projet de vie. Et c'est une posture qui est vraiment importante dans l'accompagnement qu'on a, c'est-à-dire que les personnes sont expertes de leur situation. Et on ne vient pas, nous, avec une vision surplombante en disant « on sait comment on doit faire les choses ».
Alors, des missions denses, très variées, toutes ont pour objectif d'accompagner toutes les personnes victimes d'exclusion, on l'a compris. La première mission, alors, je ne sais pas si c'est la première mission d'Espéré, mais en tout cas, c'est quand je suis allée sur votre site internet où on vous trouve quand même très facilement. Une des premières missions qui est présentée, c'est celle d'écouter et d'orienter, notamment donc grâce à la plateforme d'appel du 115 que vos équipes portent et font vivre. Alors, ma question, Jamila, c'est... c'est quoi cette plateforme et quand est-ce qu'on peut appeler le 115?
Alors le 115, c'est le numéro d'appel d'urgence. Quand est-ce qu'on appelle le 115? On appelle le 115 dès qu'on se retrouve à la rue. C'est la première action qu'il faut faire quand on est à la rue, c'est d'appeler le 115. C'est un numéro d'appel d'urgence, donc national, géolocalisé, Et donc, peu importe qu'on ait des unités, pas d'unités sur son téléphone portable, c'est un numéro d'urgence, au même titre que la police, que les pompiers. C'est vraiment un numéro d'urgence extrêmement important. Au moment où on appelle le 115, on acte notre présence, on devient visible. Voilà. Et le danger, effectivement, pour beaucoup de personnes sans abri, c'est de ne pas être visible et de ne pas pouvoir avoir accès à toutes les associations et tous les dispositifs qui puissent exister. Puisque le 115, quand on appelle le 115, on a effectivement un appel pour une mise à l'abri. Ça, c'est la première des choses pour laquelle on appelle le 115. Mais c'est aussi un numéro où on va être écouté, on va être orienté et on va être orienté vers des accueils de jour. Même si on dort dehors, effectivement, il y a cette réalité. Hein. Aujourd'hui, dans tous les départements, mais le Val d'Oise, en tous les cas, on a énormément d'appels qui arrivent au 115. Donc on a à peu près en moyenne à 400 appels décrochés par jour par une équipe de travailleurs sociaux écoutant 115. Et la réponse, même si elle est négative pour la nuit, il faut qu'en journée, les personnes puissent se poser, se reposer quand même, pouvoir manger, se doucher, comme disait Eric. Mmh. Alors il y a différents accueils de jour sur le département du Val d'Oise. Le SPA 95 en gère un, qui est l'accueil de jour de Cergy. Eric parlait de l'accueil de jour de nos collègues de la Croix-Rouge à Aizenville, avec qui on travaille en étroite collaboration également. Et le 115, c'est aussi quand on dort dehors et quand on est dans la situation d'Eric, c'est aussi ce qu'on appelle un signalement maraude. Les écoutants 115 vont faire un signalement à leurs collègues de la maraude Croix-Rouge, qui vont intervenir la nuit et qui vont aller à la rencontre de ces personnes à la rue.
Alors, vous faites des maraudes à
également.
Titre espéré.
Alors, nous espérés, on fait des maraudes de jour. On a une équipe de jour qui intervient uniquement sur le département, enfin uniquement, c'est déjà bien, sur le secteur de l'agglomération de Cergy-Pontoise, en journée.
Voilà. Vous, c'est le jour.
Nous, c'est le jour.
Et après, il y a des collègues
sur l'agglomération de Cergy-Pontoise et sur l'ensemble du département, on a nos collègues de la Croix-Rouge, qui est une maraude professionnelle, voilà, complétée avec leurs collègues bénévoles, mais en tous les cas, c'est une maraude professionnelle, qui intervient sur l'ensemble du département, sur les signalements faits par le 115, par des particuliers, par les hôpitaux, par les commissariats.
Et alors ce numéro, le 115, est-ce qu'on peut l'appeler ? Alors bon, j'imagine que parfois il y a il y a beaucoup d'appels. Vous parlez de 400 appels par jour.
Décrochés. On en reçoit beaucoup plus.
Oui, j'imagine que vous n'avez pas assez d'écoutants pour absorber, à mon avis, les très nombreux appels. Ça reste un numéro disponible que l'on peut joindre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ou il y a des horaires ?
7 jours sur 7, 24 sur 24. Il y a un 115 de jour, un 115 de nuit, il y a deux équipes. Et c'est vraiment au même titre qu'un numéro d'urgence, que les numéros d'urgence de la police, les pompiers. C'est vraiment le numéro d'urgence. Donc c'est 7 jours sur 7, 24, 24.
Et alors justement, vous parliez d'accueil de jour.
Oui.
Donc j'imagine que c'est donc pas un accueil de nuit. C'est pour ce que expliquait Eric. Comment ?
On a aussi un accueil de nuit.
Oui.
Le seul du département. Donc,
d'accord. Le seul du département.
Le seul du département. L'accueil de nuit de Cergy est le seul du département. Il n'y a pas d'autre accueil de nuit.
Donc l'accueil de jour. C'est ce qu'expliquait Eric au début de l'émission. C'est pouvoir. Qu'est-ce qu'on y fait dans cet accueil de jour ? On se réchauffe, on se repose, on se lave, on recharge son téléphone.
Tout à fait. Vous avez tout dit. Il y a encore la suite, mais c'est déjà pas mal.
Non, mais concrètement, il est à Cergy.
Alors, il y a effectivement prendre soin de soi, hein, manger, se poser, laver son linge, se doucher. Et puis après, il va y avoir tout le lien. Il y a des travailleurs sociaux qui font aussi l'accueil. Alors, il y a des agents d'accueil, il y a une maîtresse de maison qui sont là aussi pour écouter, répondre au maximum aux besoins des personnes qui vont se présenter. Donc, c'est de 9h à 18h pour l'accueil de jour de Cergy. Les travailleurs sociaux de l'accueil de jour vont établir des diagnostics et vont pouvoir orienter les personnes. Donc, quand on se retrouve à la rue, la première chose à faire, c'est d'appeler le 115. Et puis, c'est possible de se rendre dans un accueil de jour. Donc, comme je disais, il y en a plusieurs sur le département, géré par d'autres associations.
Et là aussi, il y a un nombre de places limitées, non ?
Alors, on a effectivement, à l'instant T, effectivement, un maximum de 80, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, un certain nombre de personnes, des normes de sécurité. Mais c'est inconditionnel. Donc, tout le monde peut se présenter. Donc, les collègues essayent au maximum de faire un roulement. C'est-à-dire que les personnes qui ont fini de se doucher, de manger, vont sortir, enfin, aller faire un tour. On est en plein cœur de la ville de Cergy. Donc avec toutes les infrastructures qu'il y a autour.
Hein. C'est où ?
C'est à quartier des Linandes, rue Francis Combes. Voilà. Et on va pouvoir accueillir les autres qui attendent. Et l'idée, c'est de répondre à tout le monde. Essayer de répondre un maximum à tout le monde. En tous les cas, toutes les personnes qui se retrouvent à la rue et qui ont besoin de ce temps pour répondre à leurs besoins. Voilà. Et notamment charger leur téléphone portable pour pouvoir contacter le 115.
Appeler le 115, bien tout sûr. Ouais. Alors, je me tourne vers vous, Eric. Vous avez bénéficié des accueils de jour.
Oui.
Votre avis sur l'accueil de jour ?
C'est très, très, très important. Quand vous avez passé une mauvaise nuit dehors, vous arrivez à 9h du matin fatigué, pas lavé, mal rasé, pas le moral. Et là, vous avez le petit café, des sourires, des gens qui vous écoutent. C'est très important. Vous vous nourrissez, vous vous douchez, vous vous mettez à l'aise et vous pouvez rester toute la journée à l'accueil de jour. Donc, vous pouvez vous reposer, poser vos affaires, aller faire vos démarches. Et si vous avez besoin de renseignements, les bénévoles sont là, les assistantes sont là, vous pouvez parler de vos problèmes physiques, de vos problèmes de tous les jours.
Donc, est-ce qu'on arrive aussi à créer du lien avec les autres personnes
qui sont là ? Au début, c'est assez difficile, comme partout, comme toutes les familles, il y a des tensions, il y a des points de vue sur les choses qui ne sont pas pareils que tout le monde. Mais à force de se côtoyer tous les jours, nous avons à peu près les mêmes problèmes, on se complète, quoi. On s'entraide.
Et puis après, c'est comme dans la vie, n'importe quelle personne. Est-ce qu'on s'entend bien avec la personne ?
Voilà, enfin, c'est ça. Sûr.
Alors, vous avez aussi à Espérer 95 une équipe mobilité santé.
Ouais, équipe mobile santé précarité, tout à fait.
Santé précarité, est-ce que ça, c'est une action encore supplémentaire ou c'est... Bon, tout est imbriqué, peut-être maraudes, avec l'accueil de jour. C'est quoi une équipe mobilité santé ?
L'équipe mobile santé précarité, donc une équipe médicale, d'infirmières, d'aides-soignantes, et qui s'est déclinée, c'était il y a un an maintenant.
Ouais. Deuxième équipe mobile santé précarité, périnatalité. Donc, on est vraiment sur les sujets de périnatalité.
On est plus sur les femmes enceintes à la rue. Voilà, ou en situation d'hébergement précaire. Donc quand je dis hébergement précaire, c'est de la mise à l'abri. Hein. La différence entre l'hébergement et la mise à l'abri. C'est provisoire, c'est l'instant T, c'est l'urgence.
C'est l'urgence, tout de suite.
L'hébergement, c'est la stabilité. C'est je peux me poser et me reconstruire et avancer avec une équipe de travailleurs sociaux présents sur place. La mise à l'abri... On a la chance d'avoir aussi au 115 quand même une équipe. Alors ça va être c'est un gros service, c'est un très gros service, c'est aussi la partie SIAO, mais c'est surtout une équipe qui peut établir aussi des diagnostics quand on se pose, on est mis en urgence à l'abri, hein, c'est vrai, ça mise à l'abri, c'est vraiment pour son nom. Il y a une équipe qui peut venir faire un diagnostic sur la situation et donc permettre de donner un petit des premières billes pour pouvoir avancer. Hein. Donc ces équipes mobiles interviennent dans les accueils de jour, dans les centres d'hébergement. Dans les hôtels où sont les mises à l'abri des familles avec enfants, et elles permettent de renouer le lien avec la santé et les droits des personnes et les prises en charge, surtout médicales.
Ouais. C'est essentiel, parce qu'Éric en parlait tout à l'heure dans son parcours, c'est-à-dire comment on n'ose pas forcément aller vers un médecin pour X ou X raisons. Il y a beaucoup ce qu'on appelle les invisibles en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors des radars, qui ne sont pas dans les dispositifs, qui ne vont pas voir les associations, qui ne demandent pas d'aide. Et si on ne va pas, c'est ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire si on ne va pas vers ces personnes-là, à leur rencontre, c'est des situations qui peuvent vraiment s'aggraver. Et voilà. Et donc là, et en termes de santé notamment, donc ces équipes mobiles, elles sont vraiment essentielles pour ça.
Eh bien, je vous propose de continuer notre conversation juste après avoir écouté J'ai deux amours de Joséphine Baker. À tout de suite sur IDFM.
Ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est Paris, parle toujours, mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon nier ce qui mon sol sert, c'est Paris, Paris tout entier. Un jour, c'est mon rêve joli, les deux mon pays Paris.
IDFM 98FM.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations avec Joachim, Jamila et Eric d'Espéré 95. Alors pendant la pause musicale, Joachim disait mais en fait nous on accompagne de la rue au logement et entre la rue et le logement on passe par tout un tas de dispositifs. Notamment, Jamila parlait du fameux dossier SIAO qui est très important. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ah oui, c'est moi.
Et bien c'est maintenant, Jamila.
Donc effectivement, ce que je disais, quand on se retrouve à la rue, il y a la partie urgence de la situation où on est sur le numéro d'urgence 115 et la mise à l'abri. Et ensuite, il y a la partie hébergement. Et pour avoir accès à cette partie hébergement, où, il faut absolument avoir un dossier SIAO. C'est un dossier qui est extrêmement important pour les personnes qui sont à la rue, donc le service intégré d'accueil et d'orientation, qui porte le 115. Le 115 est le service d'urgence du SIAO. La partie hébergement, ce qu'on disait, de la rue jusqu'au logement, des fois, dans notre parcours de rue, dans le parcours de rue, on peut avoir... énormément accumulé de problématiques qui font que si on va directement vers le logement, on peut recommencer sans cesse cette boucle. On va se retrouver à nouveau en difficulté. Donc des fois, il faut mieux avoir ce temps en centre d'hébergement. Donc il y a différents types de centres d'hébergement en fonction des problématiques que la personne rencontre, en fonction de ses besoins. Et ça, c'est le rôle du SIAO. Quand on fait son dossier SIAO, on dit tout à son assistante sociale, à son éducateur spécialisé... sous les métiers du travail social.
Voilà. Et c'est elle
et c'est, et c'est les chargés d'orientation du SIAO. Donc il y a une équipe qui est dédiée à ça, qui va recevoir ce dossier SIAO, qui va avoir de son côté toutes les places financées par l'État, de disponibles dans les différents centres d'hébergement. Centre d'hébergement pour familles victimes de violences conjugales, centre d'hébergement pour jeunes, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et qui vont faire matcher la demande, les besoins de la personne, avec la place qu'il y a de disponible. Alors ça prend du temps, je veux le dire quand même, ça, parce que je le dis, ça, j'ai l'impression que c'est tout de suite. Ça prend énormément de temps, parce que bien évidemment il n'y a pas assez de place, comme il n'y a pas assez de place de mise à l'abri, il n'y a pas assez de place d'hébergement. Donc effectivement, quand on fait sa demande, il faut énormément... Alors la patience, je crois, je ne sais pas si Eric va me rejoindre, c'est la patience, ça doit être la qualité de la personne sans abri, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, parce qu'effectivement tout est très long, voilà. Mais on finit par y arriver. Et donc quand on arrive dans ces centres d'hébergement, on se répare soi-même déjà et on est aidé par les travailleurs sociaux, avec tous les partenaires qu'il peut y avoir autour des centres d'hébergement, pour pouvoir avoir droit à un moment donné accès à son logement.
Et on est un peu moins invisible aussi.
Et tout à fait. Au moment où on fait un dossier SIAO...
On est dans les dossiers administratifs.
Au moment où on a un dossier SIAO, on n'est plus du tout visible, parce que je termine juste par ça. Un des rôles extrêmement importants du SIAO, c'est l'observation sociale, qui est extrêmement importante. L'importance d'appeler le 115, d'avoir un dossier SIAO, c'est aussi de rendre visible, comme je disais tout à l'heure. Et ces statistiques, ces données que le SIAO transmet à l'État, aux services financeurs, mais aussi aux collectivités, à la mairie. Voilà, c'est public d'ailleurs, hein, c'est sur le site d'Espéré. C'est extrêmement important, parce que ça montre effectivement l'état de cette problématique-là sur le département du Val-d'Oise.
Et vous nous avez bien expliqué la différence entre mise à l'abri et donc là, hébergement. Oui. Autre question, la différence entre hébergement et logement. Est-ce qu'il y a une différence ou pas ? L'hébergement...
Oui. Oui. L'hébergement, c'est le temps dont la personne va avoir besoin pour se réapproprier son autonomie, ses droits, parce que ça reste ses droits. Donc là, sur l'hébergement, bah, peut-être à un moment donné, elle va avoir besoin du travailleur social pour ouvrir ses droits, pour l'aider à ouvrir ses droits. Et l'idée, c'est qu'elle puisse à un moment donné le faire toute seule, être complètement autonome à tous les niveaux. Pour faire ses courses, aller vers les institutions, les maisons de quartier par exemple, quand on habite, quand on va aller dans un centre d'hébergement, c'est le travailleur social qui va organiser l'animation, qui va organiser le lien avec les institutions du quartier. Bah, c'est aussi apprendre à la personne, bah, quand je vais avoir mon logement, je vais savoir aller à la maison de quartier la plus proche, parce que je sais que là-bas il y aura une permanence de la ville, il y aura une permanence de la CAF, il y aura, voilà. Tout ça, ça s'apprend, ça se réapprend peut-être aussi. Je dis pas, c'est le mot réapprendre.
C'est tout à fait ça.
Parce que, merci Eric. Allez,
vas-y. Vous êtes adoubé, pareil.
C'est tout à fait ça. Je voulais dire un petit mot. Pour tous les sans-abri qui m'écoutent, faites le 115, c'est très important. Comme ça, vous êtes dans l'ordinateur, les gens, les maraudes savent où vous êtes et vous pouvez demander de l'aide, si vous voulez.
Et pour compléter le logement, bah, c'est on est chez soi. Hein, on est soit locataire, soit propriétaire, comme vous êtes dans votre chez vous. Alors après, on peut avoir des systèmes de logement intermédiaires, on va en parler, comme la maison relais. Mais la grande distinction, c'est qu'une fois que tout ce travail est fait, quand on est prêt à aller dans le logement, et ben voilà, on est vraiment chez soi, on paye son loyer, on paye ses charges. Voilà.
Alors vous faites de l'accompagnement vers le logement et également vers l'emploi.
Oui.
Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est-à-dire des accompagnements, je crois qu'il y a des chantiers d'insertion. Ouais.
Alors, il y a différents dispositifs. On accompagne des personnes qui sont plus ou moins éloignées de l'emploi. S'il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup d'accompagnement pour se mobiliser vers l'emploi et d'autres qui sont plus prêtes à travailler. Donc, on a aussi bien des conseillers en insertion professionnelle qui vont accompagner à travers des entretiens, à lever les freins pour aller vers l'emploi. Et on a effectivement aussi quatre ateliers chantiers d'insertion où là, c'est vraiment de la mise en pratique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a de l'accompagnement social qui est fait, il y a de la formation qui est mise en place, mais les personnes, elles sont mises en condition de travail. Donc on a trois chantiers d'insertion, c'est sur les espaces verts qui travaillent principalement sur l'agglomération de Cergy-Pontoise et sur celle de Roissy. Et puis on a une cuisine d'insertion, donc là c'est qui prépare les repas pour l'accueil de jour, accueil de nuit et d'autres dispositifs. Et l'objectif, c'est pas en sortant de ces dispositifs de devenir jardinier ou cuisinier, hein, c'est vraiment d'acquérir les codes autour de l'emploi, des choses aussi simples que
être à l'heure.
Voilà, non, mais c'est voilà, c'est ces codes-là, mais aussi la sécurité, le travail en équipe, et puis de pouvoir se remobiliser pour ensuite être accompagné vers un.
Et les personnes qui intègrent ce dispositif, elles sont salariées, elles sont rémunérées pour le travail.
C'est partie des 350, je ne sais plus.
C'est ça, 330
salariés d'Espérer 95.
C'est une quarantaine de salariés en insertion. Ouais.
Ouais. Bon, on s'est dit en aparté que vous reviendrez Espérer 95 pour nous parler d'autres dispositifs, parce que vous êtes quand même une grosse association. Il y a énormément d'actions, d'activités, de projets qui sont mis en place, mais on l'a compris qu'Espérer 95 impulse, fait vivre énormément d'actions et de projets de lutte contre l'exclusion. Quel constat vous faites sur l'évolution de la précarité en France? J'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte.
Il y a Eric qui se flatte déjà.
Alors Eric.
Vu mon expérience, avant, quand moi j'étais dans la rue, il y avait surtout des personnes âgées de mon âge, 50, 60 ans, il n'y avait pas... À l'heure actuelle, il y a beaucoup trop de jeunes à la rue. Il y a beaucoup trop de difficultés. C'est de plus en plus jeune. Il y a de plus en plus de femmes avec des enfants à la rue. C'est plus possible. Il leur faut un hébergement. Il leur faut de l'aide.
Alors je vais compléter, comme ça on va faire la petite chaîne. Mais effectivement, ce que dit Eric, c'est extrêmement pertinent, puisque une des preuves, entre guillemets, c'est que le SIAO, qui est, je vous dis qu'il y a un observatoire social aussi qui est très important, fait deux fois par an des coordinations territoriales des SIAO. L'ensemble des acteurs de la veille sociale et des partenaires institutionnels sont invités à réfléchir sur une problématique, en tous les cas à échanger sur une problématique. Et donc là, le thème, c'est effectivement, de la prochaine, sont les jeunes. Donc ça va être sous forme de forum. Et effectivement, ils sont visibles, là pour le coup. On les voit et on les a beaucoup dans nos dispositifs, de plus en plus jeunes, très jeunes. de 18 ans, hein, et avec une accumulation de problématiques autour des addictions, mais autres, beaucoup des jeunes filles, la prostitution, qui n'est pas forcément nommée, hein, mais qui est visible en tous les cas, avec un fonctionnement autour de la prostitution, des addictions, enfin, c'est extrêmement compliqué. Et l'ensemble des partenaires sont en difficulté face à ces jeunes et aux moyens qu'on nous donne.
On est en première ligne en fait, et on voit vraiment un appauvrissement de la population en général française, une précarisation qui s'accroît, aussi bien financière, aussi bien en termes de liens. On parle de liens sociaux, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'au fait aussi, le fait d'être dans une société de plus en plus individualiste, où il y a de moins en moins de solidarité locale, ça a un impact très fort sur les parcours, sur les filets de sécurité collectif saute en fait quand on peut compter sur sa famille, son voisin. Eric en parle bien dans son parcours. Ça, c'est de plus en plus fréquent. Et on voit effectivement de plus en plus de jeunes, de plus en plus de familles, de plus en plus de problématiques aussi de logements. Il n'y a pas de place dans les logements. Il n'y a pas de place dans les logements sociaux. Donc, en fait, nous, on a des dispositifs qui symbolisent. C'est-à-dire que des personnes qui sont prêtes pour aller vers le logement, on ne peut pas les accompagner au logement parce que les places ne sont pas là.
Il y a un plafond de verre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a...
Donc, les places ne se libèrent pas en hébergement d'urgence. Donc, des personnes qui sont à la rue restent à la rue. Et voilà. Donc il y a quand même il y a cette situation là et puis on voit aussi très concrètement, on parlait de l'accueil de jour, on a une hausse de la fréquentation et on a aussi une hausse dans les accueils de jour, les hôtels aussi où on accompagne des personnes qui sont hébergées en hôtel parce qu'il n'y a pas assez de place dans les hébergements d'urgence, au niveau des besoins d'aide alimentaire. L'accueil de jour, on est passé de 80 repas à peu près 120 repas servis par jour, voilà, c'est un besoin qui est croissant, à un moyen constant. Là, j'en appelle aussi, voilà, je vais faire un petit peu la chose, mais faut les dons, c'est important pour les associations aujourd'hui, le soutien des associations par les personnes, par les entreprises, dans une situation budgétaire qui est quand même très tendue, avec des budgets qui sont de plus en plus contraints, parce qu'on dépend beaucoup des subventions, et heureusement. Voilà, et aujourd'hui, on a des besoins qui grandissent. Et il faut, alors on innove, les associations sont très agiles, elles arrivent à innover pour trouver des solutions, mais voilà, on a aussi besoin de soutien, et notamment voilà, sur ces questions d'aide alimentaire, ne serait-ce que pouvoir acheter de la nourriture pour distribuer aux personnes. On a de plus en plus de gens qui ne mangent qu'un repas dans la journée.
Et que l'aide alimentaire, elle touche pas seulement les personnes à la rue, elle touche aussi des personnes qui sont en situation de logement, qui ont même un travail et qui peinent...
Mais on a, je rebondis là-dessus, excuse-moi, mais sur le travail, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir et qui travaillent, qui ont un emploi, qui dorment dans leur véhicule. Voilà, je veux dire, il y a quand même une situation qui est un petit peu inquiétante.
Ils viennent en tenue de travail à l'accueil de nuit. Quand je dis qu'on a le seul accueil de nuit sur le département, l'accueil de nuit n'est pas un centre d'hébergement, c'est une prestation. Donc c'est un accueil de nuit. Donc les gens viennent se poser, reposer. C'est pas des lits, hein, c'est des banquettes en dur, avec une salle commune. Et on a des personnes qui viennent avec leur tenue de travail. Voilà.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors on écoute un titre de votre choix, Eric, La boîte de jazz de Michel Jonas. Et on se retrouve juste après sur IDFM pour que vous nous présentiez ce qu'est une maison relais. À tout de suite.
Parti un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés,
c'est pas un habitué, sûrement pas un amoureux de désir.
L'orchestre s'installe des professionnels,
come on boy,
et c'est moi qui s'interpelle.
Hey Gus, tu connais Charlie Mingus?
Oh, par cœur, je connais par cœur.
Hey fils, le nom est Davis.
Aussi, le caméancier. J'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington.
Ok.
J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire, ça y est, je transpire, timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis.
Hey
cœur, je le donne par cœur.
Et puis, tu joues comme Jimmy Smith.
Merci, c'est sympa, merci. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Mary Jackson. J'aime tous les succès de Duke Ellington. Tous les standards, Scott Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Margaret Jackson, Sam Thompson, Mark Benson, Scott Peterson, Duke
Ellington.
Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de ma vie.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Vous êtes sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations avec Jamila Marioum, Joachim Reynard et Eric Candini d'Espérer 95, association qui a pour objet de prévenir et de combattre sous toutes ses formes l'exclusion sociale et les processus de marginalisation. Alors, c'est le moment, Eric, parce que on attendait de savoir, vous êtes résident d'une maison relais, et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir en parler. Comment vous expliqueriez à quelqu'un qui ne connaît pas, comme moi par exemple, ce qu'est une maison relais?
Alors, je vais vous expliquer. C'est une structure, qui loue des studios de 25 mètres carrés. Selon vos ressources, il vous loue un 25 mètres carrés, donc vous êtes à peu près autonome. Vous pouvez chercher du boulot, faire vos papiers, parce que vous avez le personnel à l'intérieur, c'est-à-dire sur place. Vous n'avez pas besoin de prendre le bus, le train pour aller voir un assistant social, tout est sur place. Ensuite, vous avez des animations, vous avez du sport, vous avez de la peinture, vous avez beaucoup d'activités.
Et alors, dans ces 25 mètres carrés, vous vous dites louer, ça veut dire que
oui.
Chaque résident paye.
Oui, 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 oui. Voilà, vous avez un loyer à payer, donc ouais. ça vous réhabitue à payer un loyer, ça vous réhabitue à vous réinsérer. Et ça vous permet de vous isoler un peu, de vous reposer. Vous avez une douche à l'intérieur, vous avez une plaque chauffante, vous avez un WC, vous avez tout le confort possible.
D'accord, donc vous pouvez dormir, vous reposer,
oui.
Faire à manger si vous avez
manger
envie
sur place.
D'être tranquille.
Vous avez une pièce commune, donc de temps en temps, vous pouvez manger ensemble. Vous avez un four, vous avez tout ce qu'il faut pour faire à manger en commun. Là, même des frigos, vous pouvez acheter vos nourritures, vous avez tout. Tout est complet dans la chambre.
Alors, Eric disait, on n'est pas tout seul. On a notre autonomie et notre indépendance dans nos appartements.
Mm-hmm.
Et il y a, vous avez dit, du personnel.
Du personnel.
Alors, qui est ce personnel? J'ai l'impression que vous habitez dans un château.
Ouais, ouais.
C'est qui est ce personnel?
Alors, ce personnel, dans les maisons relais, on appelle ça les hôtes. Donc, ce sont, alors, en fonction des maisons relais, les profils peuvent plus ou moins varier. Alors, nous, en tous les cas, sur la maison relais où est actuellement locataire Eric, parce que ce sont des locataires, ils ont un bail, ce qui n'est pas forcément le cas en centre d'hébergement. La différence, c'est que d'hébergement, ils ne sont pas chez eux, ils sont hébergés. Voilà. Donc on a, nous, fait le choix, en tous les cas, puisque l'objectif de la maison relais, c'est vraiment le lien social, se retrouver avec les autres. Et donc on a une animatrice, Morgane, on va la nommer,
ouais.
C'est vrai. Qui propose plein d'activités, des sorties, des visites, sur un peu partout, hein, Paris et autres... enfin, dans le secteur. Donc, Morgane dispose d'un budget. Elle va réunir tous les habitants de la maison relais. Elle va leur demander, plus ou moins, qu'est-ce que vous aimeriez faire ce mois-ci, le mois prochain. Et en fonction des envies des uns des autres, elle va ajuster en fonction de son budget, mais aussi en fonction. Elle s'appuie beaucoup sur les partenaires locaux, donc Théâtre 95. J'ai oublié. comment ça
culture
s'appelle
du coeur.
Culture du cœur, voilà. Et je pensais à une autre association de théâtre sur sur Iranie, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, elle va être son travail va être complété par du coup l'accompagnement social, comme disait Eric. Ils sont tous sur place, donc ils ont deux travailleurs sociaux, alors qu'ils s'occupent de deux maisons relais, mais elles se partagent les deux maisons relais, mais en tout cas un travailleur social qui va se charger de veiller à ce que tous les papiers soient faits, que s'il y a besoin d'aide pour ouvrir tel droit ou renouveler tel droit, c'est elles qui vont être en veille et qui vont veiller à ce que l'habitant puisse avoir à disposition tout ce qu'il lui faut, en tous les cas, pour pouvoir maintenir ses droits d'ouvert.
Surtout les documents, oui.
Voilà.
Surtout les papiers.
Donc c'est elles ont un bureau important au sein même de la maison relais. Donc c'est un bâtiment avec plusieurs studios. Au sein du bâtiment, il y a des bureaux qui sont consacrés à l'accueil du public. Une laverie et une salle commune.
Et vous êtes dans cette maison relais depuis combien de temps?
Je suis arrivé en 2022, ça fait 4 ans.
Alors ma question c'était, combien de temps on a le droit de rester en maison relais?
Autant de temps qu'on veut.
C'est
on
ça
peut,
qui est bien.
On peut rester toute sa vie si on
n'a pas la pression
pas
de
la
devoir
pression
rendre les clés.
Comme le CHRS ou les foyers d'accueil. Vous avez un laps de temps, les CHRS, j'y suis passé, ils nous donnaient à 2 ans maximum. Mais en 2 ans, le temps que vous vous reconstruisez, vous vous soignez, les 2 ans, ils passent très vite. Donc le temps que vous faites tous vos dossiers, les 2 ans sont passés, vous devez laisser la place. Donc vous vous retrouvez à la rue et vous abandonnez, vous repartez. Donc
là,
les maisons relais, c'est fait pour avoir un ancrage. Voilà, vous posez.
De la sécurité.
Dont la sécurité. Dont la sécurité.
Et alors, on parlait d'activité. Vous faites quoi?
Bon, on fait plein de sorties, comme disait Jamila. Morgane organise des sorties.
Vous y participez, bien sûr,
toutes les sorties. Ouais. La dernière fois, ils ont été au Louvre. On va sur Paris. On va aux étangs de Cergy. Là, bientôt, on va partir en vacances.
Ouais.
Ah ouais,
à la mer.
Ah ouais,
ouais. Ouais. C'est superbe.
Et au niveau de l'ambiance, est-ce que
il y a une
ça
très bonne
se passe
ambiance
bien dans la maison relais?
Ah, comme partout, comme toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas.
Et
on vient de différents milieux, donc on se complète, quoi. Quand ça
connaît
des tensions, on fait calmer les choses. Ça arrive.
Et alors aujourd'hui, vous êtes, je crois, devenue une personne ressource pour d'autres locataires, d'autres personnes qui passent par Espérer 95. Si, parce que vous froncez les yeux, il y a quand même votre photo dans le rapport d'activité d'Espérer 95. Donc vous êtes la mascotte, vous êtes un des ambassadeurs d'Espérer 95. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui sont en difficulté et avec qui vous échangez?
Je pourrais dire que ceux qui sont vraiment à la rue, je leur conseille de faire le 115 et d'en parler autour d'eux. Si vous êtes dans le 95, allez à Espérer 95 à Cergy, allez aux accueils de jour et faites-vous connaître vos problèmes. Et je vous garantis que ces gens-là ne feront tout, absolument tout, pour vous aider.
Ça prendra peut-être du temps, parce qu'il y a on parlait des plafonds de verre, du manque de place. Mais vous, ce que vous dites, c'est aller solliciter les différentes aides possibles, et ça commence par le 115, et de se rendre sur les accueils de jour et de nuit, peut-être aussi.
Exactement. Faites la démarche, et je vous garantis que ces gens-là ont une patience incroyable. Ils sont très gentils, ils vont vous aider, ils vont vous laisser du temps. Vous allez avoir du temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, refaire vos démarches, surtout allez les voir. Ne restez pas dans votre coin.
Alors, est-ce que, Eric, vous allez rester encore, vous avez prévu de rester encore un petit bout de temps en maison relais, ou est-ce que vous projetez peut-être un logement, d'intégrer un logement autonome?
J'ai la chance actuellement d'avoir un projet d'un logement autonome. Sur Menucourt.
Alors comment ça se fait que... qu'est-ce qui fait que vous vous sentez prêt là? Ça y est, maintenant. Quels sont les critères pour se dire, allez, c'est bon maintenant, j'ai envie ou je peux intégrer un logement autonome?
Disons qu'au départ, quand je suis rentré en maison relais, j'avais beaucoup de problèmes physiques et de santé et d'addiction. Donc cette maison relais m'a donné du temps de me reconstruire, de me soigner et de voir à peu près ce que je voulais faire de ma vie. parce que c'est compliqué. Voilà quoi. Et maintenant, je suis arrivé à un point où je me suis soigné, reconstruit, et maintenant j'ai l'espoir d'aider les autres à se reconstruire et à se soigner et leur donner les conseils, parce que je suis passé par toutes les addictions possibles quand j'étais à la rue, donc je comprends toutes les personnes qui arrivent à la Maison Relais et qui ont des problèmes d'addiction ou physique. Donc, je les aide à se reconstruire.
Et bientôt, quand vous serez à menu court.
Et bientôt, je vais avoir mon logement autonome. Mais bon.
Et alors, le logement autonome, ça veut dire... alors, à part si Eric devient bénévole à SFR 95, est-ce que lorsque les personnes qui sortent des maisons relais, est-ce qu'ils on continue à prendre des nouvelles les personnes ont le droit aussi de se dire je ferme.
Exactement, c'est eux qui décident. Alors l'accompagnement bien sûr s'arrête parce qu'effectivement il faut qu'il s'arrête à un moment donné parce que ça n'a plus de sens. Mais bien évidemment, s'ils ont envie de venir nous faire des coucous, venir donner des nouvelles, à grand plaisir. Mais ils ne sont pas du tout obligés parce que l'objectif il est atteint. Voilà. Après, on en parlait déjà avec Eric, au début ça peut être un peu difficile, il y a des inquiétudes. Donc en fonction de la personne, alors peut-être au début, il y aura peut-être besoin de revenir un petit peu et tout ça. Et puis poser les bonnes questions, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est quand on est prêt pour son logement, ça veut dire qu'on est prêt aussi à intégrer son quartier, ses voisins et tout ce qui se proposait autour. Mais il faut savoir là, aller chercher tout ça, puis faut savoir dans quelle institution je peux me présenter pour avoir des activités, pour avoir... voilà, tout ça, ça s'apprend et c'est les équipes traversées qui aident les personnes à s'approprier ça. Et quand une personne, je complétais tout à l'heure, on est parti de la rue jusqu'aux hébergements et après on va jusqu'au logement. Et vous parliez de nos équipes qui intervenaient compris dans les logements. Donc on a des équipes, ce qu'on appelle de l'AVDL à SLL, des équipes qui sont dédiées aux personnes qui sont dans leur logement ou qui vont intégrer un logement. On peut aussi solliciter une équipe qui va se rendre sur place, qui va accompagner la personne, déjà dans le centre d'hébergement avant même de rentrer dans le logement, bien la préparer pour que le logement soit vraiment une finalité de ce parcours précaire juste encore une étape parce qu'on n'aura pas vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ou une angoisse, ou une méconnaissance aussi. Et donc ces équipes-là, elles interviennent sur les logements aussi pour permettre aux personnes de maintenir leurs droits et de bien s'installer.
L'objectif, c'est qu'on voit plus les personnes dans les dispositifs après, quoi, qu'elles soient autonomes.
Elles redeviennent invisibles pour votre association.
Alors, nous, on les appelle les citoyens d'espérés, parce que ce sont eux, c'est la commission citoyenne d'espérés qui a décidé de nommer les personnes d'espérés, enfin, les personnes qui accompagnent les citoyens d'espérés. L'objectif, c'est qu'ils deviennent des citoyens lambda.
Merci beaucoup Eric, Jamila et Joachim d'être venus nous présenter Espérer 95 avec engagement, bienveillance et enthousiasme. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter ?
Via notre site internet, je pense que c'est la meilleure façon. On a un formulaire, on répond absolument à toutes les demandes. Donc on peut nous contacter, quelle que soit la demande. Et si c'est pour une situation plutôt de difficulté, qu'on est à la rue, sans domicile, là c'est le 115 qui est la porte d'entrée pour tout le monde.
J'ai été ravie de vous recevoir. Merci.
Merci à vous.
Un grand merci à Christophe pour la réalisation de cette émission. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour découvrir une nouvelle association.
De France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Depuis 1994, vous pouvez entendre sur IDFM Radio l'émission Country and Souvenirs avec Patrick Mullis. Alors n'hésitez pas. Il est pas donné, à peine qu'elle l'est. Restez branchés le dimanche soir de 19h à 21h pour 2 heures de country music et chaque semaine, vous pouvez gagner un album en envoyant un message à countryidfm@gmail.com. Bonne semaine à tous et bonne écoute surtout. À bientôt.